Alors la dernière fois, je vous avais parlé un petit peu de la révélation, hein, le fait que Dieu se révèle, comment nous accueillons cette révélation de Dieu, par les moyens que nous avons, la Bible, le catéchisme, toutes ces sources qui nous permettent d'être en contact avec la révélation. Et ce soir, j'aimerais faire un petit pas de plus. Hein. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais j'aimerais parler justement de quelques termes qu'on utilise, hein, qui sont importants pour nous et qui vont nous permettre de clarifier des choses dans notre esprit sur la manière justement dont nous accueillons cette révélation. Alors pour nous chrétiens, nous parlons souvent de mystère. Alors c'est un mot que l'on connaît, hein, dans le civil. Le mystère, pour dire une énigme ou quelque chose qui est un petit peu étrange. Alors, pour nous, un mystère, nous ne l'utilisons pas dans cette acception-là, hein, ce mot. Pour nous, le mystère, c'est justement ce projet de Dieu dans lequel il se révèle et il se communique. C'est ce que nous avons dit la dernière fois, hein, Dieu en même temps se révèle et il se communique, il se transmet. Et c'est finalement tout son projet que nous appelons le mystère, avec un grand M. Alors dans la Bible, dans le Nouveau Testament surtout, il y a plusieurs passages où Saint Paul surtout utilise ce terme. Alors je vais vous citer par exemple ce qu'il dit dans la lettre aux Éphésiens. Par révélation, Dieu m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Alors ce terme mystère, l'utilisons en particulier à chaque fois qu'il y a quelque chose de divin qui se réalise et qui se manifeste, que ce soit le mystère en général ou un aspect de la révélation. Un aspect du projet de Dieu qui se réalise, et nous utilisons justement ce mot mystère. Alors, au mois d'octobre, par exemple, on parle du mystère du rosaire, pour ceux qui connaissent la prière à la Vierge, parce que dans tout ce que nous méditons, les étapes de la vie de Marie et de Jésus, bien, il y a un mystère, c'est-à-dire, au travers d'une histoire humaine, il y a quelque chose qui se révèle du projet de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un mystère, les mystères du rosaire. Quand nous, chrétiens, nous parlons du mystère de la vie humaine, ce n'est pas pour dire que la vie humaine est un truc bizarre, c'est pour dire qu'au travers de la vie humaine, il y a quelque chose de la vie de Dieu qui se réalise, qui se manifeste. Donc quand on utilise ce mot mystère, c'est toujours dans ce sens très fort, il y a une révélation du projet de Dieu derrière. D'accord ? Alors, une expression que nous entendons souvent, c'est le mystère pascal. C'est un terme pour nous qui est clé, c'est-à-dire nous désignons par là tout ce qu'il y a derrière l'événement de Pâques, l'événement de la mort et de la résurrection du Christ, un événement qui est unique dans l'histoire, qui s'est passé un moment dans l'histoire, qui s'est passé une fois pour toutes, une expression qu'on trouve aussi souvent dans les Écritures. Mais au contraire de tous les autres événements, il n'a pas vocation à rester dans le passé. Parce que c'est un événement qui concerne finalement toute l'histoire, toute l'histoire du cosmos, toute l'histoire humaine surtout. Et ce mystère pascal, eh bien, nous croyons qu'il est vraiment éternel d'une manière spéciale, comme il concerne tous les temps, il est gravé dans l'éternité, et il est rendu présent d'une manière spéciale au travers de notre vie, de la vie de l'Église. Parce que justement cet événement de la passion et de la résurrection du Christ nous concerne tous. Cet événement qui est la clé de notre salut, la clé dans notre relation à Dieu. Un événement qui nous transforme et qui nous attire vers la vie divine. Donc ce mystère pascal est pour nous le sujet essentiel. Alors ce mot mystère, on peut le croiser de temps en temps dans la Bible, mais il faut remarquez que le mot grec, mystère, mysterion, il a en fait été traduit par deux mots en latin. Le mot mysterium, mystère, mais il y a aussi le mot sacramentum, le mot sacrement. Alors ce mot sacrement, justement, c'est un terme qui est très proche du mystère. Mais dans ce mot, nous allons dire que ce projet de Dieu, cette pédagogie de Dieu, elle se manifeste d'une manière visible et concrète, au travers des éléments vraiment visibles. Jésus nous révèle qui est Dieu, et nous disons que Jésus est le sacrement de Dieu. Parce que dans sa vie, dans la vie de Jésus, au travers de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il est, Dieu se révèle et Dieu agit. Dans la vie de Jésus, la vie elle-même de Jésus rend visible ce qui est invisible. Sa destinée humaine et concrète est en fait ce qui réalise notre salut. Alors, la dernière fois, nous avons déjà un petit peu réfléchi là-dessus, justement, le fait que Jésus manifeste, il montre que Dieu est une relation d'amour. Il exprime l'amour du Père dans la communion de l'Esprit-Saint et il nous fait entrer dans cette relation d'amour. Il nous unit à lui pour que nous participions à cette vie de Dieu. Et cette vie de Dieu en Jésus, bien justement, elle est communiquée à nous tous au travers de l'Église, qui est le prolongement de Jésus. J'avais déjà cité la dernière fois cette parole de Bossuet. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Et je ne sais pas si vous vous rappelez que dans la dernière prière, nous avions cité un passage de la première lettre de Saint Jean, je vais juste le citer, qui nous parle de cette communion, cette Église qui est la communion avec le Christ et donc avec la vie de Dieu. Saint Jean nous dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Donc l'Église est profondément en communion avec la vie du Christ, et c'est pour cela que l'Église est aussi le sacrement de Dieu. Dans ce que vit l'Église, eh bien, Dieu va se révéler, se manifester et nous transformer. Alors, je vais citer le catéchisme. Dans le Christ, l'Église est en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. C'est une phrase où il y a beaucoup de choses dedans. Alors, la vie du Christ se manifeste dans l'Église, donc elle en témoigne, elle est le signe de cette vie divine, mais en même temps elle est le moyen de transmettre cette vie, puisque Jésus a voulu que l'Église soit le canal au travers duquel cette vie nous est donnée. Le projet de Dieu, c'est que chacun connaisse cette union intime avec lui et qu'une multitude entre dans cette communion. Donc son désir est en fait d'unir toute l'humanité, pas seulement parce que nous sommes tous humains, hein, nous sommes tous unis de ce fait-là, bien sûr, mais nous unir dans notre destination, dans notre destinée finale. Il veut que tous nous devenions une même famille, une famille divine, nous devenions un seul corps unis dans le Christ. Et dans l'Église, justement, cette unité est déjà commencée et elle est visible, puisque l'Église rassemble des hommes et des femmes de toutes nations, races, peuples et langues. Donc nous disons que l'Église est le sacrement de Dieu, finalement, parce qu'elle est l'instrument du Christ aujourd'hui, par lequel il manifeste et réalise l'amour de Dieu pour tous les hommes. L'Église est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité, qui veut que le genre humain tout entier constitue un seul peuple de Dieu, que le genre humain tout entier se rassemble dans le corps du Christ et devienne un temple du Saint-Esprit. Tout ça, c'est des expressions que nous entendons parfois, qui viennent du catéchisme. Alors, dans l'Église, il y a justement ce phénomène important, ce fait de la visibilité, qui est pour nous important. Et l'Église est à la conjonction de l'invisible et du visible. Parce que bien sûr, le mystère de Dieu est invisible, mais dans l'Église, nous le rencontrons de manière visible. L'Église est à la fois humaine et divine. Elle est visible et riche de réalités invisibles. Alors, la dernière fois, j'avais rapidement évoqué justement les diverses religions qui existent, hein, pour vous demander quelle est la spécificité de notre religion finalement. Alors, parce qu'il faut remarquer qu'aujourd'hui, ben, tout le monde n'est pas dans l'Église. C'est un peu incontournable. Il y a des personnes qui n'entrent pas de manière visible dans l'Église, et pourtant elles sont concernées par le projet de Dieu. Alors nous croyons que l'Esprit Saint, lui qui réalise la communion avec Dieu, eh bien nous croyons qu'il travaille au-delà de cette visibilité. Alors l'Église nous dit que puisque le Christ est mort pour tous, ça c'est sûr, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, c'est-à-dire finalement il n'y a qu'une seule vocation pour tous, hein, il y a un but dans l'existence humaine, c'est de devenir enfant de Dieu. Bien, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Donc cet Esprit Saint, même si de manière visible nous ne sommes pas dans l'Église, eh bien, il peut trouver des chemins pour nous unir au mystère du Christ. Même pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, il y a un chemin possible par lequel l'Esprit les unit à lui. Alors le chemin sûr, le chemin solide pour arriver à cette union avec le Christ, c'est de le connaître, évidemment, c'est pour cela que nous sommes ici. C'est en connaissant le Christ que nous pouvons mieux l'aimer, que nous pouvons pleinement accueillir son salut, que nous pouvons l'accueillir visiblement. Et c'est pour cela que la mission chrétienne est importante. Nous voulons partager cette connaissance du Christ, pour que tous trouvent le chemin le plus complet, le plus solide pour découvrir la plénitude du Christ et pour entrer dans la vie du Christ. Alors bien sûr, on peut toujours se réjouir qu'il y ait des belles choses qui se vivent dans d'autres religions, dans notre spiritualité. Il y a dans beaucoup de religions des choses qui préparent finalement le chemin du Christ. Mais nous devons vraiment cultiver ce désir de partager la plénitude du Christ pour qu'il y ait cette conjonction du visible et de l'invisible, pour que cette œuvre invisible que Dieu veut réaliser dans les cœurs, bien, elle soit aussi visible, et qu'on voit cette unité, cette vie divine qu'il veut donner à tous, et dans cette communion de l'Église. Donc ça c'était pour parler un peu de l'Église sacrement, puisqu'elle rend visible ce projet de Dieu qui est invisible, qui est spirituel. Alors quand nous parlons des sacrements, nous pensons plus spontanément aux 7 sacrements. Il faut en dire un petit mot quand même, justement, ces sacrements qui sont ces signes concrets par lesquels Dieu agit aujourd'hui dans l'Église, comme Jésus posait des signes au travers desquels il a exprimé l'agir de Dieu, bien ces sacrements prolongent ces actions du Christ dans l'Église aujourd'hui. Et Dieu vraiment se donne, se communique et se révèle de manière spéciale au travers de ces sacrements-là. Alors, il y a une expression qu'on rencontre parfois, c'est l'économie sacramentelle. Alors l'économie, c'est en fait la manière de gérer, de dépenser les choses. L'économie sacramentelle, c'est-à-dire comment Dieu se transmet au travers des sacrements. Comment il se communique, il se transmet au travers des sacrements. Et nous disons que dans tous ces sacrements, dans la liturgie de l'Église, au travers desquels les sacrements nous sont donnés, eh bien le Christ signifie et réalise son mystère pascal. Il y a tout le mystère de Pâques qui vient à notre rencontre au travers de ces sacrements. Ces sacrements que Jésus a institués, hein, les 7 sacrements, ils vont nous connecter à un aspect du mystère pascal, par des signes qui sont accessibles à nos sens. On a de nouveau cette idée de la conjonction de l'invisible et du visible. Il y a toujours une parole, un geste, une matière concrète qui donne consistance au signe, mais un signe au travers duquel la réalité de ce qu'il signifie est vraiment donnée. On parle de signes efficaces. Justement, ce ne sont pas que des symboles, mais vraiment un sacrement, un signe efficace. Dieu réalise quelque chose au travers de ces signes-là. Alors il y a trois sacrements à la racine de notre vie chrétienne, ce qu'on appelle les sacrements d'initiation. Ces sacrements qui nous connectent au mystère de Dieu et qui permettent au mystère de Dieu de s'incarner dans notre vie. Alors, je vais juste dire un petit mot, hein, puisque on reviendra certainement sur chacun des sacrements. Mais le premier sacrement qui nous connecte au mystère pascal, c'est le baptême, bien sûr. Le baptême que Jésus demande à ses apôtres, à la fin de l'évangile de Marc, par exemple, dans les dernières paroles de Jésus, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Alors le baptême, c'est ce porche d'entrée dans la communion avec Dieu. Alors Jésus nous parle ensemble de la foi et du baptême. Cette double condition. Parce que si nous avons la foi, si nous accueillons cette révélation de Dieu, dont on a déjà parlé, eh bien nous devons recevoir ce signe efficace qui nous relie à la vie de Dieu. Nous devons avoir le côté visible de ce mystère. Pas seulement essayer de grappiller la grâce invisible. Il faut entrer dans ce mystère de manière visible. Nous devenons enfants de Dieu par notre connexion, notre communion intime à Jésus, qui doit passer aussi par ce canal visible. Alors en fait, ce qui s'est manifesté au moment du baptême de Jésus se réalise dans la vie de chacun de nous. Nous connaissons les textes dans les évangiles qui parlent du baptême de Jésus, il est présent dans les quatre évangiles. L'Esprit descend sur lui, nous entendons la voix du Père qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Alors pour Jésus personnellement, cet événement n'a rien changé. Lui, il est éternellement le Fils bien-aimé du Père. Mais au moment de son baptême, c'est en fait pour l'Église tout entière qu'il va recevoir cette grâce de la filiation. L'Église qui est le corps du Christ, hein, dont il est la tête, en fait, il reçoit en tant que tête, finalement, la grâce pour tout son corps. Et chacun de nous, en tant que membre du Christ, nous recevons cette parole de Dieu, « Tu es mon Fils », et nous recevons l'Esprit Saint. C'est cela qui se passe dans notre baptême, quand nous recevons le baptême de Jésus. Alors, Jésus disait, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Celui qui refusera de croire sera condamné. Alors Jésus ne parle pas de ceux qui peut-être ont la foi, mais ne sont pas baptisés. Et ça rejoint la considération que j'ai faite tout à l'heure, justement, parce qu'il y a certainement des gens qui seront sauvés, qui entrent dans son salut, sans le connaître, sans recevoir le signe, la visibilité du sacrement, le signe du baptême. L'Esprit Saint trouve parfois des chemins. Et heureusement. Alors, je vais citer par exemple ce que nous dit le catéchisme. Tout homme qui, ignorant l'évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît, peut être sauvé. On peut supposer que de telles personnes auraient désiré explicitement le baptême si elles en avaient connu la nécessité. Ce qui est premier, ce qui est essentiel, c'est la foi. Et nous entrons dans la plénitude de la foi par le sacrement du baptême. Parce qu'il y a besoin de cette incarnation, de cette visibilité de la foi. Cette incarnation qui est nécessaire parce que nous sommes des êtres incarnés. Nous ne sommes pas seulement des purs esprits, nous sommes chair et esprit. Et nous avons besoin de vivre cette visibilité. Mais le premier, la racine, c'est la foi. C'est ça qui est important. Alors, d'ailleurs, j'ai expliqué à Anthony, le catéchumène, qui n'est pas là, hein, mais qui a fait son entrée en Église. Donc, il a fait cette première étape de demande du baptême. Et alors, dans cette étape, nous avons déjà vu que voilà, la grâce travaille dans son cœur. Hein, il a le désir du baptême, c'est clair, il l'a manifesté. Et officiellement pour l'Église, si jamais il devait mourir avant de recevoir le baptême, ça peut arriver, eh bien on considérait qu'il est baptisé, mais qu'il sera baptisé dans son désir en fait. Voilà. Donc il nous ramène droit à des funérailles chrétiennes, hein, voilà, parce que justement ce désir est, c'est en fait la racine du baptême. Voilà. Mais il faut quand même qu'il attende de recevoir pleinement ce sacrement, ce signe du baptême, c'est-à-dire dans la nuit de Pâques. Donc voilà pour le baptême, qui est cette première connexion, et une connexion qui s'approfondit dans l'Esprit-Saint, car l'Esprit-Saint nous marque en profondeur, nous recevons l'Esprit de Dieu, et cette union à Dieu par l'Esprit-Saint, elle est signifiée d'une manière spéciale par la confirmation. Ce deuxième sacrement d'initiation, alors je vais citer ici le catéchisme, les apôtres, pour accomplir la volonté du Christ, communiquèrent aux nouveaux baptisés, par l'imposition des mains, le don de l'Esprit, qui porte à son achèvement la grâce du baptême. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Hébreux, prend place parmi les éléments de la première instruction chrétienne, la doctrine sur les baptêmes et aussi sur l'imposition des mains. L'imposition des mains est à bon droit reconnue comme l'origine du sacrement de la confirmation, qui perpétue en quelque sorte dans l'Église la grâce de la Pentecôte. Alors, l'Esprit Saint dans la vie de l'Église, il s'est manifesté d'une manière visible et puissante dans la Pentecôte, donc ce moment qui marque le début de la mission de l'Église, la mission de l'Église totale et la mission personnelle de chacun des apôtres. Et cette Pentecôte, nous la vivons intimement justement dans le sacrement de la confirmation. Alors avec l'imposition des mains, l'Église a rapidement rajouté un signe, le signe de l'huile, une onction d'huile qui traditionnellement signifie l'onction de l'Esprit-Saint. Mais à la racine, c'était l'imposition des mains. Alors par le baptême et la confirmation, nous sommes connectés à la vie de Dieu, enfants de Dieu, dans le Fils unique, remplis de l'Esprit. Cette connexion est définitive, il y a un don définitif, ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Nous sommes vraiment marqués d'un sceau éternel. Il dit qu'il y a vraiment un sceau dans notre âme qui fait que voilà, ces sacrements bien, ne peuvent pas être réitérés, on ne peut pas les recevoir deux fois. C'est une fois pour toutes que nous recevons cette grâce et que nous entrons dans cette connexion avec la vie de Dieu. Et le fait de devenir, d'être enfant de Dieu, nous allons l'exprimer, nous allons le percevoir et l'exprimer d'une manière toute particulière lorsque nous célébrons l'Eucharistie du Christ. Et c'est pour cela que l'Eucharistie, bien, c'est pour nous le troisième sacrement d'initiation. C'est dans l'initiation, même si nous la vivons tous les dimanches, même plus. Mais c'est pour nous la plénitude, c'est le but du chemin, le fait d'exprimer notre vie d'enfant de Dieu en union à la vie de Jésus. Alors je ne vais pas parler trop de l'Eucharistie, pas ce soir. Mais dans ce sacrement de l'Eucharistie, nous disons que nous sommes vraiment à la source et au sommet de notre vie chrétienne. Dans l'Eucharistie, c'est tout le mystère pascal qui est présent et qui est actuel pour que nous l'accueillions et pour que nous nous unissions à ce mystère pascal. Alors, ce sacrement contient tellement tout ce que Dieu veut exprimer et donner qu'on l'appelle en fait les saints mystères. C'est une expression qu'on utilise pour désigner l'Eucharistie. Avec ce sens du mystère, c'est vraiment toute la vie divine qu'il veut nous donner, qui vient dans ces saints mystères. Nous utilisons d'ailleurs normalement cette expression au tout début de la messe, dans le texte officiel, en latin, puisque dans la nouvelle traduction, ce n'est pas encore une bonne traduction, parce que dans la traduction qu'on a depuis 2 ans, nous disons « Préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie ». Bon, c'est bien. Mais le texte latin nous dit « Nous nous préparons à célébrer les saints mystères. » Pour dire que dans ce que nous allons vivre, nous accueillons pleinement le mystère de Dieu. Alors dans chaque sacrement, il y a une connexion particulière à Jésus par l'Esprit-Saint, bien sûr. Mais dans ce sacrement-là, dans l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même qui est pleinement présent. Dans tous les sacrements, il nous unit à lui. Mais dans l'Eucharistie, il nous transforme en lui. Il s'unit intimement pour nous transformer à lui, en lui. Par ce sacrement, nous entrons pleinement dans le mystère, en prenant notre pleine place dans le projet de Dieu. Au moment de la consécration, ce moment le plus sacré où Jésus se rend présent sur l'autel, Jésus est présent et l'action et son sacrifice est présent. Le prêtre dit « Il est grand le mystère de la foi ». C'est cette expression du mystère. Et en réponse, nous faisons mémoire de la mort, de la résurrection de Jésus. Nous rappelons, nous croyons vraiment que tout le mystère pascal de Jésus est présent. Et nous prenons notre place dans ce mystère en étant unis à sa vie, en étant unis à la prière du Christ. Alors, pour terminer, je voulais juste vous citer la prière que nous avons priée ce dimanche dernier, et les derniers jours pour ceux qui étaient à la messe de semaine peut-être, au moment avant la consécration, donc la prière sur les offrandes, nous avions cette belle prière. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà ces quelques éléments que je voulais vous donner pour entrer un peu plus avant dans ce mystère de la vie de Dieu que nous recevons dans le grand sacrement qui est l'Église et que nous recevons concrètement au travers des sacrements. Et ces premiers sacrements que nous avons reçus, que nous recevons, les sacrements d'initiation.